Les textes de ce dimanche nous parlent à première vue de l'amour humain, de l'union entre les personnes dans l'amour, en particulier de celui qui peut unir un homme et une femme. Mais il me semble que la parole nous dit également quelque chose d'essentiel sur cette union fondamentale entre Dieu et nous, sur l'amour de Dieu pour nous. Et bien qu'il n'y ait aucun lien direct avec notre pays, permettez-moi d'emprunter la devise nationale pour mettre en lumière les trois caractéristiques essentielles de cet amour divin. Liberté, égalité, fraternité, qui sont bien des valeurs chrétiennes, comme le relevait le pape Jean-Paul II lorsqu'il est venu en France en 1980, dans son homélie du Bourget. Liberté. L'amour de Dieu est toujours premier et prévenant. Il est à la genèse de tout amour, comme le montre la première lecture. Dieu aime l'humanité et se montre plein de sollicitude à son égard, mais c'est l'homme qui décide d'accepter ou de refuser l'alliance. Dieu propose, l'homme dispose. Aussi, bien que des êtres vivants, bêtes des champs et oiseaux du ciel, soient donnés à l'humain, Adam, le glébeux, pour l'aider, celui-ci ne trouve satisfaction dans les dons de Dieu qu'avec la vivante par excellence, Ève. En faisant le choix de la femme, l'homme répond positivement à l'amour de Dieu, un amour entier et illimité, et cela l'engage une fois pour toutes. Rappelons-nous la phrase du renard dans Le Petit Prince, « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». L'amour entre l'homme et la femme, qui prend sa source en Dieu, nous dit quelque chose de l'alliance entre Dieu et l'humanité, comme l'a notamment expliqué saint Jean-Paul II dans bon nombre de textes qu'il a consacrés au mariage et à la famille. Ainsi, dans son exhortation apostolique sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, il affirme, je cite, « La communion d'amour entre Dieu et les hommes, contenu fondamental de la révélation et de l'expérience de foi d'Israël, trouve une expression significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la femme. Et au fondement de cette alliance amoureuse se trouve la liberté. Lorsque je prépare des couples au mariage, j'accorde toujours un temps assez long à la discussion sur la liberté, qui est un des quatre piliers du mariage chrétien. Pour s'engager vis-à-vis d'une autre personne, celle-là seule et pour toute la vie, il faut que le choix soit libre. Libre de toute influence extérieure, mais aussi libre par rapport à toutes mes attaches intérieures, avec des personnes, des substances, des conditionnements ou des comportements. Le désir de l'unité indissoluble, exprimé par le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un, une seule chair, précise Jésus. Ce désir est fondamental, mais il ne trouve son expression authentique que dans la décision libre d'accueillir l'amour de l'autre et de se donner à l'autre, jour après jour, dans la fidélité à l'alliance rappelée par l'anneau nuptial. Reconnaissons-le. Se promettre fidélité pour la vie, à l'heure où fêter ses noces d'or est devenu banal, tient de la gageure. Mais c'est possible. Et certains parmi nous peuvent en témoigner. Et merci pour votre témoignage. Cela relève de la liberté la plus haute, d'un choix renouvelé humblement, qui dépasse le simple coup de foudre et ne craint pas les tentations ou les drames inhérents à toute existence humaine. C'est possible à l'échelle de l'homme, c'est aussi possible dans notre relation avec Dieu. Oui, nous sommes libres d'aimer. Égalité. S'il y a bien quelque chose d'étonnant dans l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il nous place à hauteur même du Seigneur. En se rendant accessible et aimable à l'homme, Dieu confirme qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. De plus, comme le développe la lettre aux Hébreux, celui par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. La générosité de l'amour vrai a donc conduit le Seigneur à faire de nous ses fils en nous donnant son Fils. Il nous accorde ainsi une dignité filiale égale à celle de Jésus. C'est tout simplement stupéfiant. Comme le rappelle saint Paul à plusieurs reprises, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Les distinctions, dont celle des sexes, qui est inscrite dans notre nature comme une réalité indépassable, ne peuvent pas servir de point d'appui à quelque oppression que ce soit. Voilà ce que dit implicitement Jésus lorsqu'il précise qu'une femme ne peut pas renvoyer son mari pour en épouser un autre. Jamais on n'avait entendu des choses dans ce sens-là. C'était toujours au mari qu'était accordée la permission de répudier sa femme. Jésus ne fait que tirer des conséquences de l'Écriture. La femme est l'os des os de l'homme, la chair de sa chair. Dans le texte hébreu, le mot « ish », qui désigne l'homme masculin, n'apparaît que lorsqu'est nommée « isha », la femme. Distincts l'un de l'autre, mais ayant une même origine, comment l'homme et la femme ne seraient-ils pas égaux en dignité, parce que l'homme et la femme sont bien frères et sœurs de Jésus. Fraternité. Au-delà d'une discussion sur le permis et le prescrit, le légal et le légitime, Jésus souhaite montrer que l'amour entre l'homme et la femme ne peut s'entendre que comme une union à jamais, analogue à l'amour liant Dieu à l'humanité. Cette union à jamais trouve une autre expression dans la solidarité de Jésus avec nous. En prenant la chair de notre chair, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et toute son existence terrestre n'a été qu'une preuve d'amour fraternel. Pourtant, me direz-vous, nous l'entendons se fâcher à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. C'est vrai. Jésus hausse le ton et reprend ses disciples car il les voit se méprendre. Les enfants qu'on lui amène ne sont pas des importuns, car ils sont les signes vivants de l'amour de Dieu, comme le laisse penser l'affirmation du Christ, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il nous faut donc accueillir le royaume de Dieu avec simplicité et confiance, comme des enfants, en fils adoptif d'un Père qui nous aime infiniment. Ainsi, pourrons-nous être nous-mêmes accueillis par Jésus en petits frères et nous laisser embrasser et bénir par lui, pour qu'à notre tour, nous sachions embrasser et bénir nos frères. Liberté, égalité, fraternité. Dieu manifeste son amour de bien des façons, et toutes, quoique exigeantes, sont à la mesure de son espérance pour nous. Il nous offre le salut et l'accès à son royaume. Il nous offre la communion pleine et entière avec lui. À nous le bonheur si nous acceptons de faire un avec Dieu. Le voulons-nous ?